L'histoire se passe en 1735. Le 9 février, arrive à Saint-Jean-de-Maurienne un étranger, décrit par les témoins comme étant de petite taille. Nommé Jean-Antoine Dominique Courtois, originaire selon ses dires de Turin. Il est accompagné d'une femme, Manon Flamand, originaire de Fribourg en Suisse, et de son enfant âgé de 8 ou 9 ans. Selon les moments, Manon se dit mariée depuis 4 mois avec Courtois, ou bien elle raconte qu'il doit bientôt l'emmener à Verceil, où il passerait sous la baguette, ce qui veut dire qu'il accéderait à ses désirs et qu'il l'épouserait. Jean-Antoine Courtois, que certains témoins qualifient de comédien, déclare être diseur d'avenir, faiseur d'horoscope et joueur de gobelets. C'est que les gobelets sont les plus anciens objets utilisés par les prestidigitateurs et escamoteurs. Le tour consiste à faire apparaître et disparaître mystérieusement un objet qui passe d'un gobelet à l'autre ou qui se retrouve dans la poche du prestidigitateur. À leur arrivée à Saint-Jean-de-Maurienne, Courtois et son épouse cherchent un logement et trouvent deux chambres que leur propose honnête Jean-François Cara, originaire de Saint-Michel-de-Maurienne, âgé de 23 ans, et qui est actuellement marchand et chamoiseur en la cité de Maurienne. Le chamoiseur, c'est celui qui prépare les peaux pour leur donner la consistance d'une peau de chamois. Cara tient ces deux chambres qui sont situées rue de Beauregard, la rue qui part de la place du Bornel de la Pierre, place du marché actuel, et qui monte en direction du couvent des Sœurs de Saint-Joseph, en assancement de la veuve Mollaret, c'est-à-dire qu'il loue ces deux pièces en échange d'une somme d'argent qu'il reverse à la veuve. Pour leur repas, les arrivants s'adressent à honorable Marguerite Cibord, la belle-mère de Jean-François Cara, qui est hôtesse et cabaretière rue de Beauregard. Les deux chambres sont directement à côté de sa maison, il y a même des degrés communs, des escaliers, entre les deux maisons. Marguerite fournit pendant environ 15 jours à boire et à manger aux arrivants. Et pendant cette période, les repas sont livrés par la servante de l'auberge nommée Françoise Opinel. Les premiers temps, Courtois reçoit des invités dans sa chambre où il donne pendant quelques soirées du divertissement à ceux qui veulent venir jouer au gobelet, participer à quelques jeux de cartes et faire quelques danses. Il trouve aussi quelques clients influençables à qui il prédit l'avenir et fait un horoscope. Honorable Jean-Baptiste Gardet, tailleur de profession et dont Courtois a sollicité les services, explique qu'il a même servi de truchement, c'est-à-dire d'interprète, pour un horoscope que Courtois a fait à Messire François Borély parce qu'il ne s'exprimait pas bien en français. La réputation de Jean-Antoine Courtois s'établit et il commence à mener grand train. Il embauche une servante, Marguerite, la fille de feu Michel Barre, originaire d'Util et âgée de 18 ans, à qui il demande d'aller chercher de l'eau matin et soir, de faire leur lit et de balayer leur chambre, moyennant 5 sols par semaine. Mais elle ne reste pas longtemps dans la place, car un jour, la femme de Courtois lui reproche d'avoir volé un louis d'or, alors que c'est elle qui l'a utilisé pour s'acheter une robe de chambre d'indienne. Courtois, s'en étant aperçu, fait grand bruit et menace d'en parler au diable. La servante dit « Épouvantée, je l'ai quittée sans y être retournée ». Les escroqueries vont alors commencer, ce qui va entraîner une enquête ordonnée par l'avocat fiscal, l'équivalent du procureur actuel, en réponse aux rumeurs inquiétantes qui circulent dans la ville. Le 23 mars, Jacques Albrieux, le juge courrier commun de la cité de Maurienne, qui est chargé de l'affaire, découvre dans un premier temps que Jean-Antoine Courtois se targue d'être un guérisseur et qu'il abuse de patients crédules. C'est la raison pour laquelle le juge se rend, en compagnie de son greffier, le sieur Giffose, au hameau du Bordet, dans la paroisse de Jarrier, au domicile de Denise Truchet, l'épouse d'Étienne Collet. L'interrogatoire se fait en présence de Jean-Michel et Pierre Collet, témoin requis, natif aussi de Jarrier. Interrogée sur les généraux, Denise répond être âgée d'environ 41 ans, sans profession, n'avoir aucun bien si ce n'est quelques meubles que son mari estime valoir entre 30 ou 40 livres et ne pas être parente, alliée, créancière, débitrice, censière, domestique, ni commère des parties. Le juge commence par lui faire lecture de la remontrance, c'est-à-dire lui explique le motif de l'enquête. Puis il l'interroge sur ses relations avec le sieur Courtois. Elle explique. Ayant ouï dire dans ma paroisse de Jarrier qu'il y avait à Saint-Jean-de-Maurienne un opérateur qui était habile et qui guérissait de bien des maux, mon mari a commercé avec lui pour me traiter d'une pierre d'urine, des calculs rénaux, que j'ai, et lesdites conventions faites, je suis venu chez le dit opérateur, dont je ne sais pas le nom, dans la maison de la veuve Mollaret, près de la maison de ville, où il faisait son habitation, et c'est une semaine environ avant le carnaval proche passé, depuis lequel temps je suis resté jusqu'au jour et fête de Saint-Joseph aussi terminée. Dans les conventions, il est prévu que Denise Collet couche dans la deuxième chambre, fasse le lit, balaye les chambres et prépare le dîner en échange de son traitement. Les soirs où le sieur Courtois organise des dîners dans cette deuxième chambre, il l'envoie coucher chez sa mère, qui loge dans une maison appelée les Quatre Chapelles, située au croisement de la Grande Rue et de la Rue des Cloîtres. L'histoire ne dit pas si la dame a été guérie de sa maladie de la pierre d'urine. Mais les escroqueries ne se limitent pas à l'exercice illégal de la médecine. Le 27 mars 1735, le juge Albrieux convoque en présence de l'avocat fiscal Jean-Baptiste Galice et d'Humbert Rambaud, un notaire collégié qui fait fonction de greffier, il convoque honnête Jean-Baptiste Gardet. Le témoin déclare être hâtif et habitant de la cité de Maurienne, être âgé de 33 ans et tailleur de profession. Ses biens s'élèvent à 100 livres et il n'est pas lié au parti. Il prête serment sur les saintes écritures entre les mains du juge tenu et il promet de dire la vérité après qu'on lui ait répété l'importance de ce serment et les peines établies contre les parjures et ceux qui déposent le faux et taisent la vérité. Le juge l'interroge sur ses relations avec Courtois. Il répond qu'il ne connaît Courtois que parce qu'il occupe une chambre voisine chez la veuve Mollaret et parce qu'il a travaillé pour lui comme tailleur. Et puis, le juge continuant à l'interroger, il reconnaît que le jour de la fête de Saint-Mathias, Jean-Antoine Courtois lui a proposé de venir avec lui chercher un trésor. Il lui a même offert un louis d'or en échange de son silence. Jean-Baptiste Gardet répond qu'il ne voulait rien faire, qu'il aimait mieux rester dans sa pauvreté que d'avoir d'argent que l'on n'ait que par la voie du diable. Pourtant, le dimanche suivant, Jean-Antoine Courtois emmène le tailleur Gardet du côté de la maison de charité, près de la ville, à Lancesay, où personne n'habite, étant dans un endroit un peu à l'écart de la ville. Arrivé sur place, il lui explique qu'il y a un trésor caché dans la cuisine, qu'il sait comment le trouver parce qu'il ne lui faisoit point de peine de parler au diable. La porte est ouverte, ils entrent et visitent la maison. Courtois demande à Gardet qui est celui dont le nom est écrit sur une ardoise enchâssée dans la muraille. La maison appartenait alors au noble Batandier et prendra le nom de la Charité lorsqu'ils la donneront à l'hôpital. Courtois fait alors tourner une baguette en bois de frêne dans tous les appartements de la maison et Jean-Baptiste Gardet observe qu'elle tourne mieux dans la cuisine qu'en d'autres endroits. Ils ressortent alors du bâtiment. Quelques jours plus tard, Courtois propose à nouveau à Gardet de venir, de nuit, chercher le fameux trésor. Jean-Baptiste Gardet refuse. Courtois le menace alors de l'obliger à venir de force. Et Gardet réplique qu'il n'est pas son valet, qu'il ne peut pas l'obliger à venir. Et sur ce, Courtois lui répond qu'il cesse de faire sa fortune. Mais comme Jean-Baptiste Gardet ne semble pas catégorique dans son refus, Jean-Antoine Courtois change de tactique et lui envoie sa femme, Manon Flamand, qui par deux fois lui refait la même proposition, ajoutant cette phrase étrange qu'il faudrait qu'il soit un certain personnage, soit figure, mais qu'elle n'explique pas. Trois jours plus tard, Courtois fait appeler chez lui Gardet et lui propose de venir faire un voyage avec lui, promettant qu'à son retour, il lui donnerait un louis d'or et qu'il lui apprendrait tous ses secrets. Gardet refuse à nouveau. Courtois continue à le harceler en lui proposant la semaine suivante d'aller prendre un livre chez sa mère, à Turin, en échange d'un louis d'or, mais à condition de ne se faire voir de personne. Jean-Baptiste Gardet refuse toujours. Courtois, voyant qu'il a définitivement échoué, se désintéresse de Gardet et lui demande de ne plus venir dans sa chambre. Il va alors essayer de trouver une autre victime en la personne de Jean-François Carat, celui qui lui a loué les chambres. Jean-François est convoqué le 2 avril 1735 par le juge Albrieux en tant que témoin. Il dit être natif de Saint-Michel, être âgé de 23 ans, marchand chamoiseur de profession et posséder environ 1000 livres de biens. Et il raconte. 15 jours avant son départ, comme je lui fournissais des biscuits, des liqueurs et eau-de-vie, et que j'avais soin de me faire payer dès qu'il me devait une dizaine de livres, un jour que je vais dans sa chambre pour lui demander l'argent qu'il me doit, Courtois me dit que si je veux, il me fait trouver un trésor qui est caché dans l'écurie de la veuve Cibord, ma belle-mère. Il ajoute qu'il a des secrets pour trouver ce trésor, mais qu'il veut que je lui avance de l'argent pour cela, sans me dire quelle somme, et que je fasse les avances pour acheter ce qui est nécessaire. Alors, les choses nécessaires, c'est de la paille et des chandelles de graisse humaine qu'on trouve chez des apothicaires à Chambéry, à 6 livres l'once. Mais il ajoute qu'il faut en plus faire certaines cérémonies et aussi prononcer certaines paroles et dire certaines oraisons et prières, qu'il n'y a que lui qui puisse les dire, qu'il les a dans un petit livre qu'il porte continuellement dans sa poche. Pour finir de convaincre sa victime, Courtois ajoute qu'il y a des gens qui auraient été très maltraités par le diable parce qu'ils n'avaient pas su faire bien les cérémonies, qu'il a 2 grands livres de magie chez lui en Piémont, qu'il a enterrés dans une cave, enchâssés dans une caisse en plomb. Enfin, il aurait déjà parlé avec le diable, qui s'est présenté à lui en figure d'homme, lui ayant même présenté du tabac dans une tabatière dans laquelle il en aurait pris. Cette imagination sans limite ne suffit pas à convaincre Jean-François Carat, qui, extrêmement surpris et effrayé, se retire chez lui et ne veut plus avoir de relation avec Courtois. C'est par un horoscope que Jean-Dominique Courtois va attirer le prochain personnage à escroquer. Un soir du carnaval, il se rend à sa demande chez le dénommé Pierre Filliol pour lui faire son horoscope et surtout pour lui dire s'il réussit soit dans le dessein qu'il avoit et pour lequel il partoit pour Turin. Ayant assuré Messire Filliol qu'il ferait un bon voyage et lui ayant remis à cet effet une certaine oraison pour porter à son cou, avec ordre de ne point la quitter, moyennant quoi il n'aurait rien à craindre, il se fait payer 1 écu. Le voyage professionnel s'étant effectivement bien passé, des liens d'amitié vont se nouer entre les deux personnages. Jean-Baptiste Filliol va alors se rendre souvent, de jour comme en soirée, chez Courtois, entraînant dans cette relation son beau-père Jean-Baptiste Emprin, mais aussi Philippe Anselme. Denise Collet, la patiente de Jarrier, raconte. Pendant que j'étais chez Courtois, j'y ai vu venir très souvent le sieur Anselme, que j'ai ouï dire appeler Philippe de son nom de baptême, la plupart du temps de jour et quelquefois de nuit. J'y ai aussi vu venir environ 2 ou 3 fois Messire Emprin et Filliol, que je connais, mais dont je ne sais pas le nom de baptême, à l'entrée de la nuit, de manière qu'il y avait déjà des chandelles allumées dans la maison, lesquelles 2 ou 3 fois dont je viens de parler, lesdits Emprin, Anselme et Filliol, s'y sont trouvés ensemble. Et lesdits Filliol et Emprin se promenaient comme étonnés par la dite chambre, et Anselme allait quelquefois avec l'opérateur et une femme qu'il avait avec lui dans une chambre à côté de la cuisine où couchent l'opérateur et sa femme. Elle remarque également que, Courtois et Philippe Anselme parlent en patois piémontais pour que les autres ne les comprennent pas. Le dénommé Philippe Anselme semble jouer un rôle trouble dans cette affaire, puisqu'il vient souvent seul boire et manger avec l'opérateur et sa femme, criant et se disputant beaucoup, selon les témoins. Les participants sont également identifiés par Marie Gagnère, originaire de la paroisse de Saint-André et domiciliée à Turin, venue à Saint-Jean-de-Maurienne avec François-Joseph Théron, son mari, pour y poursuivre un procès et qui alloue une chambre dans la même maison. Elle décrit le petit Anselme comme petit de taille et habillé de noir, dont je ne sais pas le nom de baptême, sauf que c'est celui que j'ai vu longtemps à Turin, étudiant à l'université, et le nommé Filiole, de cette ville, dont je ne sais pas non plus le nom de baptême, le prénom, sauf que c'est un jeune homme habillé d'un drap gris-blanc, avec un autre homme, Courtois et Rabelais, que je ne connais pas, sauf que j'ai ouï certaines fois qu'on l'appelait Emprun. Les sieurs Emprun et Filiole se laissent persuader que Jean-François Courtois peut leur faire découvrir un trésor. Ils acceptent ses propositions et lui fournissent une importante somme d'argent pour sacrifier au diable. Jean-François Courtois les emmène de nuit dans la maison de charité. Pendant le simulacre de magie, la compagne de Courtois apparaît, déguisée en diable, nue, et le corps noirci avec de la suie, avec deux espèces de cornes sur la tête, jetant du feu par la bouche et tenant de la poix résinée dans la main qu'elle jette à travers les flammes des chandelles allumées dans une espèce de cercle fait avec des pierres au milieu de la cuisine. Et pendant cette mascarade, un étranger marié dans la ville nommée Duverger joue du violon. L'enquête montre que la femme sort après les hommes de la maison de la rue de Beauregard. Pendant ce laps de temps, elle quitte une de ses jupes, se noircit le corps de haut en bas avec une préparation qu'elle fait dans une grande terrine où elle mélange quantité de blanc d'œuf avec du noir de fumée. Les jaunes sont mis à part dans un plat de terre. Elle enfile alors sa robe de chambre pour sortir. Sa prestation finie, elle rentre dans la chambre, se lave et se couche, laissant son mari finir seul la séance. Françoise Opinel, la servante chez la veuve Cibord, qui vient lui livrer du vin un jour bien avant la nuit, remarque que la femme du dit Courtois avait la tête enveloppée d'un mouchoir, ce qui me donna lieu de lui demander ce qu'elle avait. Elle répondit qu'elle avait mal aux dents, et je ne puis pas lui voir le visage qui semblait tout noirci parce qu'elle l'avait tout couvert du dit mouchoir. Des témoins affirment même que certains soirs, Courtois sort armé de pistolets et de fusils. Pernette Lambert, veuve de Jean-Pierre Desnariers, âgée de 74 ans, faiseuse de chandelles de profession et qui travaille chez le sieur Anselme, raconte qu'un jour du mois de mars dernier, se retirant de son travail, elle avait rencontré environ les 10 heures du soir l'étranger qui était à la présente ville sur le pied de comédien, appuyé contre une boutique du Pontet du Bourg, qui avait l'estomac tout de travers, tenant un pistolet d'une main et à l'autre aussi quelque chose que je n'ai pas remarqué ce que c'est toi et qui avoit encore d'autres pistolets autour de la ceinture et sur le devant. Un autre témoin, Antoinette Duvernay, âgée de 35 ans et tailleuse de profession, explique que le jeudi de la mi-carême, rentrant de son travail chez le marchand Brunet en compagnie de sa collègue Ambroise Papose, elle a rencontré vers 11h du soir, dans l'allée borne de M. Molinard, qui est derrière le Pontet du Jour, un certain comédien qui était depuis quelque temps dans la ville, lequel comédien était habillé d'une veste fort rouge, fort courte, en manière de hussard, ayant la poitrine tout ouverte et la ceinture garnie de plusieurs pistolets, sabres, baïonnettes et épées. Le rencontrer nous ayant fait peur, nous rentrâmes au plus vite, et nous n'eûmes pas la curiosité de l'observer au plus près. Jean-Antoine Courtois demande alors à Pierre Filiole et à son beau-père de lui fournir plus d'argent. Comme ils n'en ont pas assez, il va en emprunter. D'abord à Pierre Salomon, âgé de 45 ans, et apothicaire à Saint-Jean-de-Maurienne. Interrogé par le juge, ce dernier confirme Le 9 mars dernier, Pierre Filliol de cette ville vient me trouver dans ma boutique située à la rue Saint-Antoine et me demande 300 livres à emprunter en or. Et lui ayant demandé ce qu'il voulait en faire, il se met à sourire en se frottant les mains et me dit qu'il ne peut pas me le dire, mais que dans 15 jours, il me les rendrait, ce qui fit que je lui prêtais 18 louis d'or mirliton. Le 16 mars, Pierre Filliol va voir un de ses parents, Jean-François Anselme, âgé de 35 ans et commis provincial des Gabelles. Ce dernier raconte lors de son témoignage que ce jour-là, Pierre Filliol, m'ayant demandé si je pouvais lui prêter deux bagues et une croix à diamant, je lui demandais s'il me les garderait longtemps. M'ayant expliqué qu'il me les rendrait dans 15 jours, je fus sur le champ avec lui, dans ma maison, où je lui délivrais ladite croix et deux bagues. Et l'ayant accompagné chez lui, il m'en passa un billet. Le lendemain, Pierre Filliol revient voir Jean-François Anselme pour lui demander à emprunter quelques vaisselles d'argent en disant qu'il attendait un ami du Piémont à qui il voulait faire honnêteté. Je lui prêtais encore 18 services d'argent composés de cuillères, fourchettes et couteaux, deux flambeaux avec leurs mouchettes et porte-mouchettes, deux salières, une écuelle avec son couvert et deux soucoupes, le tout d'argent. Il plia le tout dans une serviette que je lui prêtais de même et il le fit porter chez lui par un pauvre qui étoit devant ma porte, auquel il la remit et le fit marcher avec lui. Enfin, Pierre Filliol va emprunter à Mathieu Donat, âgé de 25 ans et marchand de profession, trois bagues en or et deux d'argent. Et lorsque le commerçant lui demande s'il voulait faire quelques mariages, il répond que cela se pourrait bien. Pierre Filliol et son beau-père sont des notables à Saint-Jean-de-Maurienne, on leur prête manifestement sans peine. Jean-François Courtois est parvenu à les persuader qu'il pouvait, moyennant un sacrifice au diable, multiplier l'argent qu'ils amèneraient. Le jour de la Saint-Joseph, le 19 mars, Denise Truchet se rend à l'église cathédrale pour entendre la messe. Elle lui rencontre la veuve Cibord, qui lui dit que l'opérateur et sa femme se sont enfuis. Jean-François Cara, le logeur, avait remarqué que Courtois et sa femme sortaient tous les soirs et rentraient 2 à 3 heures après minuit en faisant un grand bruit. Il s'en était plaint auprès de la femme de Courtois qui lui avait répondu qu'ils allaient panser un gentilhomme de la ville atteint d'une maladie secrète, lequel leur avait déjà avancé beaucoup de louis d'or. Mais Cara ne voulut pas le croire parce que deux de ces matins-là, il avait vu la femme de Courtois ayant encore le visage tout lustré et verni de noir, quoiqu'elle parût s'être déjà lavée, et lui ayant dit qu'elle paraissait bien noire à l'égard des autres fois, elle lui répondit que ce n'était pas son affaire, qu'elle était incommodée et qu'elle s'était mis quelque chose pour s'adoucir la peau. En tout cas, Cara se méfie et se fait régler immédiatement son compte, qui s'élève à 16 livres. Le 18 mars au matin, il les entend sortir, remarque qu'ils ont laissé Denise Collet seule dans la chambre et ne les entend pas rentrer dans la nuit. Inquiet, le matin, il trouve la porte de la chambre fermée, la clé sur la fenêtre et la chambre vide. Il dit « Ils sont partis comme des canailles, sans payer ». Mais l'histoire n'est pas tout à fait terminée, puisque quelques jours plus tard, ce sont Pierre Filliol, Jean-Baptiste Emprun et Philippe Anselme qui disparaissent, vraisemblablement de honte. Le 21 mars, le juge Jacques Albrieux se rend chez les Filliol, où il trouve son épouse, Esprit Emprun, et sa mère, Pernette Gladès, l'épouse de Jean-Baptiste Emprun, à qui il demande ce que sont devenus leurs maris. Elles répondent « Ils sont sortis de la ville sans savoir où ils sont allés. » Le juge et son secrétaire perquisitionnent la maison. Ils visitent les différentes chambres, garde-robe, buffet de la maison, le cellier, la cave et le jardin. Le rapport dit « Nous n'y avons rien trouvé qui puisse servir aux fins de ladite remontrance. » Il visite ensuite les deux chambres dans lesquelles ont habité l'étranger et sa compagne, dans laquelle nous n'aurions non plus rien trouvé, nous étant seulement aperçus d'une odeur de noir de fumée dans une espèce de table près d'une fenêtre, elle-même noircie en bien des endroits. Il se rend enfin dans la maison de charité située en bas de la ville, seule et un peu à l'écart, où l'on murmure que ont été tenues les assemblées. Nous y avons remarqué, dans la chambre qui est derrière la cuisine, les traces d'une espèce de rond qui semble avoir été formé par le moyen de deux ou trois pierres qui étaient encore rangées et au milieu desquelles il y avait des marques de paille ou d'herbe séchées et brûlées. Alors que s'est-il passé ? La remontrance dit « Messire Jean-Baptiste Emprun et Pierre Filliol, bourgeois de cette ville, s'étant laissé subordonner par un étranger diseur d'horoscope, qui s'en trouve au lieu-dit et qui leur a promis de leur faire trouver un trésor par sortilège ou par magie, moyennant le sacrifice qu'ils feront au diable d'une certaine somme, et de multiplier en outre tout l'argent qu'ils pourraient avoir, ils ont convenu avec le dit diseur d'horoscope, auquel ils ont fourni une somme considérable, et se sont transportés avec lui, nuitamment, dans certains endroits où le dit diseur d'horoscope a fait, à leur vue et de leur consentement, des invocations et plusieurs autres magies et sortilèges. Et non content de ce, ils ont emprunté des sommes considérables et acheté quantité de vaisselle d'argent qu'ils doivent avoir fait fondre sans savoir pour quel usage, ce qui fait soupçonner que ce ne soit pour la mélanger de quelque aloi grossier, pour en fabriquer quelques espèces ou pour quelque autre usage contraire aux intérêts du roi et du public. Les chefs d'accusation de sorcellerie ou de blasphème sont donc écartés. Pourtant, les chefs d'accusation, au départ, sont sorcellerie, escroquerie et fabrication éventuelle de fausses monnaies, ce qui justifie que l'avocat fiscal de la province de Maurienne requiert contre les présumés coupables et demande au juge Corrier de vérifier s'il ne trouve quelque chose de suspect aux intérêts du roi ou du public. On est là dans la suspicion de faux monnayeurs. Philippe Anselme fait l'objet d'une déposition précise et particulièrement embarrassante en ce sens de la part de Jean-François Carra. Je me suis aperçu que dès le commencement que ledit Courtois est arrivé dans cette ville, il avait des grandes fréquentations et conférences avec le sieur Philippe Anselme de cette ville, sans que je me sois aperçu de ce qu'ils disaient entre eux, parce qu'ils parlaient le plus souvent à voix basse ou en italien, sauf qu'une fois, j'entendis qu'ils parlaient d'un secret pour teindre l'étain en or. Et je vis même que ledit Courtois fit bouillir certaines drogues dans une petite fiole qu'il tenait suspendue avec un fil sur du charbon allumé, après quoi il en jeta en présence du sieur Anselme sur des petits crucifix d'étain qui prirent alors la couleur de l'or. Les peines encourues sont importantes, puisque pour l'accusation de faux monnayeurs, les coupables sont étranglés et brûlés en public, et tous leurs biens sont confisqués, ce qui en prive automatiquement leurs épouses et leurs descendants. Les acteurs s'étant enfuis, 16 témoins sont entendus par le juge Albrieux. L'ensemble des pièces de l'instruction est envoyé au Sénat de Savoie, qui statue le 24 mars 1735. Le juge du Sénat, nommé Bourgeois, estime que s'il est établi que ledit Courtois a prétendu être capable de faire commerce avec le diable pour trouver un trésor, il n'avait aucune intention de pratiquer des invocations ni de faire des sacrifices, puisqu'il comptait en fait sur l'adresse diabolique de sa compagne pour abuser de la crédulité des patients et pour empocher l'or et l'argent que les susnommés avaient eu la faiblesse de lui remettre. Le fisc, nonobstant ses diligences, n'a pu apporter aucune preuve de ce qui s'est fait et dit entre ledit Courtois et les susnommés lorsqu'ils s'assemblaient la nuit dans la maison de charité ou ailleurs, les vestiges trouvés ne donnant pas lieu non plus à des déductions certaines. Le témoignage de Jean-François Carra n'est pas pris en compte, il ressemble quand même beaucoup trop à une vengeance. Quant à Emprun, Filliol et Anselme, il est possible de penser qu'ils ont donné de l'argent au dit Courtois dans le dessein de sacrifier au diable et qu'ils aient assisté à cet imaginaire sacrifice qui n'aboutissait qu'à faire paraître une femme en forme de diable. Ces éléments confirment l'intention, mais les indices retrouvés paraissent trop éloignés pour en confirmer la réalité. Donc l'enquête a bien été conduite par le juge Les témoins ont été entendus, mais il n'y a pas d'aveu, puisque les parties se sont enfuies. Et même si l'atrocité d'un tel délit n'exige pas une preuve pleine et entière, tous les participants sont relaxés pour ces accusations, faute de preuves. Seul subsisterait éventuellement, si le procureur fiscal l'exigeait, l'accusation de crime de lèse-majesté divine, faux moineyeur en l'occurrence, accusation, je vous l'ai dit, extrêmement grave si elle est retenue, mais là aussi, il y aurait là aussi lieu à confiscation des biens pour les coupables et leurs descendants, mais finalement, aucune suite ne sera donnée à l'affaire. Nos protagonistes, à leur retour, eurent à rembourser les emprunts et à subir les moqueries de la population.